Ça va?
Ça va bien, merci. Ouais.
Alors, je vous présente Frédéric Mélon avec sa famille. Tu veux nous dire un petit mot, ta famille? Vous êtes venus à plusieurs, là, ce matin.
Voilà, vous avez vu passer Laure, mon épouse, depuis 2010. Juliette, qui a 4 ans et quelques. Et puis Victor, qui vient tout juste de fêter ses 2 ans.
Super. Et donc, vous êtes à Orange. Mm-hmm. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes arrivé là-bas?
On est installé à Orange depuis un peu plus d'un an. En fait, je m'y suis installé pour faire mon troisième cycle de l'Institut biblique de Genève. Donc, j'étais encore stagiaire l'année dernière auprès du pasteur Daniel Heitz et de son épouse Régine. L'année de stage s'est bien passée. Et comme espéré, nous avons proposé notre candidature. Enfin, j'ai proposé ma candidature pour être pasteur. Et l'Assemblée l'a approuvé. Donc, depuis le départ de Daniel et Régine à Montpellier pour sa retraite, et voilà, je suis le pasteur avec 2 autres anciens du Centre évangélique protestant, le CEP d'Orange.
Le CEP d'Orange. Et vous êtes affilié au CAEF,
c'est ça.
La communauté Assemblée évangélique de France.
Oui.
Très bien. Donc, tu as mentionné l'IBG, des études en théologie, mais. Avant ça, il faut qu'il se passe quelque chose dans le cœur. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Comment Dieu s'y est pris pour t'attirer à la foi, en fait?
Alors, Dieu m'a attiré à la foi dans un contexte catholique au départ. Mes parents sont catholiques, assez pratiquants. Et j'ai cheminé un petit peu jusqu'à... J'ai même demandé mon baptême à l'âge de 10 ans, donc chez les catholiques. Et puis progressivement j'ai abandonné la foi et toute pratique religieuse entre guillemets, jusqu'à ce qu'à l'âge de mes 26 ans en 2001, en fait pas le calcul, je suis né en 75, Dieu me guide dans une assemblée évangélique près de Grenoble. Ça s'appelle Brignoux, c'est une petite communauté pas loin de Champfleury, un centre de vacances que vous connaissez peut-être. Et là, dans ce culte, si vous voulez, c'était très fort parce que j'entendais dans les chants, les prières, la présidence, la prédication, j'entendais tout un tas de mots, d'idées, d'expressions que j'avais déjà entendues des années auparavant dans l'Église catholique, comme des pièces de puzzle. Seulement là, ça s'assemblait et ça commençait à dessiner quelque chose qui me parlait et qui me... touchait profondément. J'ai compris par la suite que c'était le jour J, parce que j'ai eu le privilège d'avoir un jour J, on n'a pas tous un jour précis, mais voilà, pour moi c'est clair, c'était le 6 mai 2001, le jour de mon anniversaire, nouvelle naissance.
De nouvelle naissance, un être nouveau, un nouveau Fred Mélon.
Ah là, par la grâce de Dieu.
Au service du Seigneur, ouais,
encore
par sa grâce.
Ouais.
Quelle joie de savoir que Dieu t'a aimé et que Dieu aime des pécheurs et qu'il veut sauver encore aujourd'hui.
Ouais.
Et donc après ça, tu as servi le Seigneur, parce que toute personne qui est née de nouveau sert le Seigneur, mais qu'est-ce qui t'amène à être maintenant pasteur? Comment ça s'est fait? Qu'est-ce que ça change pour toi?
Alors, j'ai été 11 ans professeur, mathématiques, sciences physiques en lycée, et puis...
Dieu t'a pardonné ça aussi. Alors.
Dieu m'a pardonné ça aussi. En réalité, Dieu préparait à autre chose, parce qu'il y a beaucoup de points communs entre un professeur en lycée professionnel et un pasteur. Donc je rencontre Laure, on se marie en 2010, et puis Laure, plus que moi, me dit « mais on devrait quand même se former pour le Seigneur, pour mieux le servir ». Et c'est vrai que je sentais aussi des limites dans mon service. J'étais actif. Je faisais partie de ces membres actifs dans l'Assemblée. On était à Villefranche-sur-Saône à cette époque, au nord de Lyon. Mais on était limités. Il y a un moment, on ne savait plus trop quoi dire ou comment dire. On avait besoin de... Et la première, et puis je l'ai rejoint dans cette vision, Dieu nous a beaucoup parlé l'été 2011. On s'est dit qu'on allait prendre une année d'études, une année à part. On passe tellement d'années à préparer une carrière professionnelle, et c'est certainement très bien... Combien de temps nous prenons pour investir pour des choses éternelles? Et nous sommes allés à l'Institut biblique de Genève, donc à la rentrée suivante, la rentrée 2012, avec donc Juliette qui venait de naître. Et pendant cette première année qui devait être la dernière année, Dieu nous a parlé d'une façon très particulière dès le premier trimestre, en nous disant « Mais est-ce que Fred, tu voudrais pas être pasteur ?» J'étais assez secoué par cette idée, encouragé par mon épouse et par d'autres personnes de l'IBG. Et en somme, on s'est dirigé vers des études du coup plus longues pour confirmer cet appel et se préparer à cette fonction.
Ce qui t'a amené donc
voilà, ce qui m'a amené. Voilà, il y a une première année donc à l'IBG, c'est une année en communauté, puis ensuite 2 ans de stage. On était à Brunois près de Melun, dans la banlieue parisienne. On avait choisi cette église, et ensuite 1 an encore de stage à Orange.
Super. Ben on est reconnaissant pour tout ce parcours. On remercie Dieu. Ouais. Et pour ton ministère, est-ce que je peux prier pour toi?
Ah oui.
Et puis après on va se mettre à l'écoute de la Bible ensemble, à l'écoute de Fred. Yes. Seigneur notre Dieu, merci encore notre reconnaissance pour ce que tu fais, non seulement dans notre vie, mais dans la vie des uns des autres, de nos frères, de nos sœurs en particulier. Merci pour ta grâce, ta compassion, merci que tu diriges nos vies, merci qu'on n'est pas dans le brouillard, dans le flou. Merci d'avoir amené Frédéric, Laure, Juliette et Victor à Orange, merci pour leur service là-bas dans l'Assemblée. Bénis cette église à Orange, bénis-nous ce matin avec leur présence et avec la prédication que Fred a préparée pour nous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Allez, on se met à l'écoute de la parole.
Je crois que je suis un chrétien mature, je cherche la volonté de Dieu, je fais ce qui est droit, enfin presque toujours. Dieu me bénit dans bien des circonstances. Oh, je porte du fruit, j'ai de l'influence. Finalement, je crois même que je ne suis pas n'importe qui. Quoi que je fasse, Dieu me bénit. C'est peut-être en pensant « je ne suis pas n'importe qui » que le roi Ozias fit n'importe quoi. Ce roi du 8e siècle avant Jésus-Christ, c'était quand même un bon roi qui a, j'allais dire, bien démarré. Il faisait effectivement, il révérait l'Éternel, il soutenait le peuple vers l'adoration du Dieu vivant. Dieu lui faisait notamment gagner des guerres, lui faisait gagner du terrain, et donc des peuples gagnés aussi à l'Éternel. Et voilà, Ozias devient puissant, devient connu, et se disait peut-être de façon prétentieuse, comme moi à l'instant, c'était un rôle, hein, quoique, je ne suis pas n'importe qui, je peux faire ce que je veux, puisque quoi que je fasse, Dieu me bénit. Hein. Et le voilà qu'il pénètre dans le temple, dans le lieu très saint, pour y brûler des parfums, ce qui était strictement interdit, tout roi qu'il était, il n'était pas sacrificateur. Et en 2 Chroniques 26, on lit qu'il entre dans le temple comme ça, dans le lieu saint, très saint. Alors les sacrificateurs, assez courageux, s'y opposent et l'avertissent. Non, tu ne dois pas faire ça, Ozias. Ozias est-il repentant? Reconnaît-il ses torts? Pas du tout, il se met en colère. Et la lèpre éclate sur son front. Jugement de Dieu, immédiat. Alors les sacrificateurs qui sont témoins de la scène ont bien compris que Dieu donnait un avertissement, et un avertissement très sévère, très juste aussi, parce que c'est un Dieu de juste, à ceux qui ne respectent pas quoi? Au-delà de ce rituel, de cet interdit, ce que Ozias n'a pas respecté, mais c'est la sainteté de Dieu. On ne peut pas rentrer, dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas rentrer comme ça dans la présence de Dieu, symbolisée par le lieu très saint, comme ça, sans autorisation, entre guillemets, sans que Dieu ait donné le moyen exactement pour le rejoindre. Avertissement très sévère. Ozias, le grand roi Ozias, a agonisé pendant 10 ans de la lèpre et il est mort de ça. Alors, détail intéressant, c'est le prophète Ésaïe qui a écrit la biographie d'Ozias. Ésaïe écrit la biographie d'Ozias. Donc Ésaïe, notre prophète, dont on va lire un texte dans quelques instants, il est bien sensibilisé à la sainteté de Dieu. Il a bien vu ce que c'était de profaner, de sous-estimer, d'outrepasser la sainteté de Dieu. Autre élément intéressant, avant la lecture, Ésaïe, donc prophète de Juda, à Jérusalem, vit au milieu d'un peuple qui abandonnait l'Éternel. tout en continuant hypocritement à lui rendre un culte. Tout en continuant à rendre des sacrifices à ses rituels, on va en reparler là aussi. Et Ésaïe écrit dans son livre que Dieu leur disait à son peuple, en substance, « Mais vous êtes dans le péché, cessez de vos mauvaises pratiques et revenez à moi. Vous avez besoin d'être pardonné, venez, revenez à moi », disait Dieu par l'entremise d'Ésaïe au peuple. C'est donc dans ce contexte qu'Ésaïe s'est peut-être demandé, mais comment puis-je servir Dieu avec un maximum d'impact dans un tel contexte? Comment servir Dieu? Comment être mobilisé pour lui dans un tel contexte? Il y a tant à faire. En tout cas, Ésaïe, c'est sûr, il a une vision céleste. Il le rapporte en Ésaïe 6. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Ésaïe 6, les premiers versets. Ésaïe 6 n'est pas chronologiquement et très certainement au tout départ du ministère d'Ésaïe. Et les 5 premiers chapitres sont là. Vous savez, la Bible n'est pas toujours chronologique. Ils sont là pour nous montrer un petit peu du contexte aussi. Donc Ésaïe 6, versets 1 à 8, je vais lire dans la version second révisée dite Colombe. Ésaïe 6. L'année de la mort du roi Ozias, je vis, donc c'est Ésaïe qui parle, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Donc, Ésaïe ne voit que le péché autour de lui et il se demande comment avoir de l'impact. Est-ce que voir le péché autour de nous, est-ce que c'est encore notre vision aujourd'hui? Cavaillon, jolie petite ville. L'étoile, la cathédrale, ses orgues, la synagogue, la colline Saint-Jacques. Ok, mais finalement, rien de bien différent du contexte d'Ésaïe. Comme en Juda, le cœur des hommes est rebelle. Et le jugement de Dieu n'a pas changé depuis le temps d'Ésaïe. Le jugement de Dieu viendra tout de même. Nous voyons donc le péché autour de nous. Comment avoir un impact sur notre monde, à Cavaillon, dans la région, en France, jusqu'aux extrémités de la Terre? Qu'est-ce qui va nous motiver pour agir ici-bas? Qu'est-ce qui va nous motiver? Pour nous mobiliser, plusieurs choses. La première que je vous propose, c'est d'avoir une haute vision de Dieu. Et je lis ça dans les versets 1 à 4. Pour nous mobiliser, ayons une haute vision de Dieu. Regardez comment Ésaïe voit le Seigneur. Il est assis sur son trône, Adonai, le suzerain, le Seigneur, le seul vrai Dieu, majesté, autorité, ok, assis sur un trône céleste, un trône élevé, très élevé. C'est pas terrestre, c'est pas posé sur le sol, c'est quelque chose d'autre. J'ai vécu quelque chose d'assez difficile à exprimer quand je suis allé à un concert des Pink Floyd en fin des années 90, on était dans un grand stade. Il y a un moment, en plein milieu du stade, il y a une énorme boule lumineuse qui est sortie comme ça. Et puis ensuite, qui s'est fendue de tous côtés, il y a des lumières qui sortaient. Dans un stade de Gerland à Lyon. Oh! c'était immense, c'était très grand, c'était pas très spirituel. Hein. Mais c'est vous dire si là, Ésaïe, on va continuer la lecture, voit quelque chose de très élevé, de majestueux. Ésaïe est totalement ébahi, il est totalement aplati par sa vision et il voit les pans du Seigneur qui remplissent le temple. Cet événement, il arrive souvent lorsque Dieu veut manifester sa présence, notamment lors de la dédicace du temple de Salomon. Dieu envahit comme ça avec sa nuée le temple où Ozias a été jugé. Hein, on n'oublie pas ça, on a ça en toile de fond. Donc Ésaïe voit le Seigneur, et puis Ésaïe voit des séraphins, et il les entend aussi, d'accord ? Alors le mot séraphin, ça vient de l'hébreu Asaph, c'est autre chose, Saraph, qui veut dire brûler. Alors, sans doute que les séraphins soulignent la sainteté un peu consumante de Dieu, parce que oui, nous dit l'Écriture, l'Éternel Dieu, c'est aussi comme un feu dévorant. Hein, il y a quelque chose de jugement éternel passé par le feu du fondeur. Enfin, vous voyez, vous connaissez toutes ces expressions. Et ils se criaient l'un à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'ils se criaient ? Avec une voix d'adoration, « Saint, Saint, Saint ». Allez, ils ne criaient pas « Amour, Amour, Amour », et pourquoi pas, pourtant, Dieu est amour. Ou « Justice, Justice, Justice ». Non, ils crient « Saint, Saint, Saint ». Ah oui. Et pourquoi trois fois aussi ? Pourquoi pas juste « Tu es très très saint ». Non, non, c'était « Saint, Saint, Saint ». Alors, on s'est demandé, est-ce que c'est la Trinité ? Mais le contexte ne soutient pas l'idée de la Trinité, ici. Non, c'est plutôt un superlatif, tout simplement. Bravo, bravo, bravo. Vanité des vanités, c'est une autre façon d'insister. Voilà, c'est essayer de dire la suprématie totale de la sainteté de Dieu. Dieu est saint, il est sans défaut, il est complètement pur, même ses pensées ne peuvent pas être péchées. Voilà, mais quel contraste, voyez quel contraste il y a entre cette vision de Dieu saint, adoré et loué par les séraphins, et le roi Ozias, qui quelque part représente bien le peuple, qui lui aussi ne révère plus Dieu. Toute la terre est pleine de sa gloire, de la gloire de Dieu, à l'image de sa robe qui remplit le temple. La gloire de Dieu, c'est quoi ? C'est quoi la gloire de Dieu ? C'est le rayonnement extérieur, visible de ses perfections, de sa bonté, et là encore ça fait écho à sa sainteté. Et du plus petit atome jusqu'à une étoile comme celle du soleil, du plus petit au plus grand, tout manifeste la gloire de Dieu. Et donc voilà, Ésaïe voit le Seigneur, Ésaïe voit des séraphins, Ésaïe sent, voit un tremblement de terre et de la fumée, verset 4. Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait et la maison se remplit de fumée. Donc, celui qui criait, c'était les séraphins. Mais imaginez le supporter de foot devant sa télé, et au moment où il y a un but, il se met à crier, oui. Yes, yes, yes. Il dit pas saint, saint, saint. Il dit quelque chose comme ça. Et alors, les murs tremblent, surtout. Alors, si c'est tout un stade, ça, le parterre tremble. J'aimerais bien un jour qu'il y ait des chrétiens dans un stade qui se mettent à hurler tous ensemble. Saint, saint, saint. Et le Seigneur, ça créerait comme ça du mouvement. Mais qu'est-ce qui nous révèle ce tremblement de terre ? Est-ce que vous vous souvenez d'autres passages de l'Écriture, avant ou après, où il y a des tremblements de terre ? Bien sûr. C'est un signe de la manifestation de Dieu aux hommes. Il y a eu un tremblement de terre lorsque Dieu, par exemple, donna sa loi au mont Sinaï, à Moïse. Il y a eu un tremblement de terre lorsque Jésus est mort. Il y a eu tremblement de terre quand il est ressuscité. La fumée, comme les tremblements de terre ici, sont un signe de la manifestation de Dieu aux hommes. Bref, Ésaïe sait qu'il vit un moment très important, très important. Il va recevoir une révélation, il va se passer quelque chose de très spécial. Et il a une très haute vision de Dieu. Sa perspective, c'est que l'Éternel est le Dieu saint, le Dieu très haut. Avons-nous une haute vision de la sainteté de Dieu ? Dans un monde où la norme n'est pas du tout la sainteté de Dieu. Vous me direz, ce serait plus simple si on avait nous aussi une vision comme Ésaïe. Oui, ce serait une manière de croire par la vue, mais je reconnais qu'avec une telle vision, sans doute, notre foi, notre vision de la sainteté de Dieu serait encore mieux illustrée, mieux sentie. Mais Dieu nous a donné, contrairement à Ésaïe qui n'en avait qu'une très petite partie, Dieu nous a donné la Bible qui nous dit combien Dieu est saint. Lisez-vous dans la Bible combien Dieu est saint. Et combien l'homme est pécheur. Et d'ailleurs, Ésaïe le dit, verset 5, et c'est ma transition vers la suite, hein. Malheur à moi. Il dit pas, ouais, bravo, super, magnifique, yes, je prends une photo, non. Malheur à moi, je suis perdu. C'est sa première réaction. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Même Ésaïe, un prophète qui déjà était au top niveau, on va dire, hein, un prophète comme lui, la première réaction, c'est « Malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme pécheur ». Et donc, après avoir une haute vision de la sainteté de Dieu, je me demande si, pour nous mobiliser à annoncer l'Évangile, à rayonner, est-ce qu'on n'a pas besoin d'une basse vision de l'homme, verset 5, une basse vision de l'homme. Voir Dieu aujourd'hui, comme avant d'ailleurs, c'était très risqué, hein. Et il est écrit en Exode, nul homme ne peut me voir et demeurer en vie, dit Dieu. Personne ne peut me voir. Parce que je suis trop saint, mon rayonnement, l'éclat de ma gloire ne convient pas à des êtres mortels parce que pécheurs que vous êtes. Imaginez, vous roulez en voiture et un policier vous fait signe de vous arrêter. Alors là, peut-être vous vous dites, oh, malheur à moi, je suis un homme dont la conduite est imparfaite. Eh oui, on a peur de l'autorité. Imaginez que le pasteur vous propose une rencontre avec lui. Vous vous dites, malheur à moi. Non. Non, je crois pas. Oh, y en a qui le craignent. Mais la police, elle incarne la justice, c'est vrai, avec des moyens de rétorsion derrière. Et on en a peur, on en a besoin aussi, on a besoin de cadres. Bon, le pasteur, lui, il incarne plus l'amour quand même, hein. Alors, la vérité, parfois aussi, être redressé, parfois. Mais dans l'amour. Et Dieu incarne les deux à la fois, la justice et l'amour. Hein? Les deux à la fois et de façon parfaite. Donc soyons rassurés, son amour est parfait, meilleur que celle du pasteur. Sa justice est parfaite, meilleure que celle de la police. Donc oui, craignons Dieu, craignons son jugement, réalisons à quel point nous sommes pécheurs. Mais ayons confiance, ayons foi en son amour et en sa justice. Ésaïe voit d'abord la justice de Dieu et il la craint. Cette crainte-là de Dieu, mes amis, elle est très bonne, elle est très salutaire et elle fait partie de notre équipement. Comme Gédéon ou Manoah ou même Pierre, souvenez-vous, Pierre, qui en Luc 5:8 tombe à genoux devant le Seigneur. Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Pierre, il avait bien cette perspective de son état de pécheur. Cultivons cette attitude. Cultivons cette attitude. Humilité, brisement. J'ai beaucoup aimé, hein, il y a un chant que je connaissais pas, j'ai déjà oublié le titre. Le troisième, je crois que c'était. Peut-être. Où on disait que, voilà, on n'était pas digne, on était, comment osons-nous? Il y avait écrit. C'est très bon, ça. Seigneur, malheur à moi. Une basse vision de l'homme, une basse vision de nous-mêmes. On va pas en rester là, hein, mais quand même. Il y a un moment, faut passer par là. Probablement qu'il n'y a pas parmi nous des pédophiles, des meurtriers, quoique sur les meurtriers, faudrait voir ce que Jésus appelle meurtrier, hein. La simple pensée de dire imbécile, d'être très en colère contre un homme ou une femme, c'est déjà la pensée du meurtre et c'est déjà équivalent. Bon, il n'y a certainement pas des voleurs parmi nous, mais qu'en est-il de notre colère? Qu'en est-il de nos amertumes? De nos égoïsmes? Qu'en est-il de notre affection, de notre plus que ça, de notre appartenance aux richesses, aux biens matériels? Qu'en est-il de notre xénophobie? Qu'en est-il de notre manque de grâce et de bienveillance? De notre amour de l'argent? Tant de péchés qui sont moins voyants que meurtriers, pédophiles, etc. Mais qui offensent Dieu. Qui offensent Dieu. C'est intéressant de voir ce qui, pour Ésaïe, constitue le problème ici. Ésaïe, il dit que ses lèvres sont impures, comme son peuple, il ne trouve pas digne de s'associer aux lèvres pures des séraphins pour célébrer la sainteté de Dieu. Il n'a pas pu entonner à la suite « Oui, saint, 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 le Seigneur, je ne suis pas digne de ça. » Est-ce que c'est mon attitude ? Dieu veut m'utiliser lorsque j'ai cette attitude de réaliser que je ne suis pas digne. Alors comment Dieu va-t-il concilier sa justice qui condamne le péché avec son amour pour le pécheur que je suis et avec sa volonté de m'utiliser ? Eh bien, pour nous mobiliser, Dieu veut que nous ayons une éblouissante vision du Rédempteur. Un Dieu très élevé, très saint, un homme très pécheur, et quelque chose qui fait le pont entre les deux, c'est une éblouissante vision d'un Rédempteur, de quelqu'un qui nous rachète de là où nous sommes pour nous conduire là où nous devrions être. Versets 6 et 7. Mais, l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Sur l'autel en question, vous savez, on y sacrifiait des animaux et on les brûlait avec des charbons ardents. Alors pourquoi ces sacrifices ? Nous sommes tous pécheurs. Comment avoir une relation, comment être réconcilié avec un Dieu qui est trois fois saint ? Il ne peut pas supporter le péché. Alors certains disent, ben, il faut faire des bonnes œuvres, il faut gagner la bienveillance de Dieu, il faut gagner son approbation, il faut gagner sa justice, son amour. Alors, à ceux qui pensent ainsi, je leur souhaite bonne chance. Parce que c'est impossible de pratiquer toujours le bien avec toujours des motivations saines. C'est impossible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On est né dans le péché. Ça fait partie de nous. Non, il faut que Dieu me déclare saint. Il faut que Dieu prononce un verdict. Il doit ôter mon péché, pas m'améliorer simplement, mais vraiment l'ôter pour me tolérer dans sa présence. Comment faire ? Alors, tous les sacrifices de l'Ancien Testament étaient une image pour montrer qu'il faut une mort. Par rapport au péché et au mien en particulier, il faut la mort, parce que c'est le salaire du péché. Tu dois mourir, Fred. Tu dois mourir, homme pécheur, femme pécheresse. Tu dois mourir, mais, dit Dieu, je t'aime. Alors, dans l'Ancien Testament, tu amènes un agneau sur l'autel, enfin, le sacrificateur ensuite le prend. Tu confesses ton péché dessus. Symboliquement, ton péché, notre péché, va sur l'agneau. D'accord ? C'est pas juste. Non, mais c'est une image, en fait. C'est maintenant... Alors, ensuite, on saigne l'agneau. C'est horrible. Oui, mais ça aurait dû être toi. Et l'agneau a pris ta place. Mais c'est incroyable. Pourquoi est-ce que Dieu ferait cela ? Parce qu'il t'aime. Mais je ne le mérite pas. Ben non, tu ne le mérites pas, mais c'est ça, la grâce de Dieu. C'est une faveur imméritée. C'est son plan de grâce. L'agneau peut prendre ta place. Est-ce que l'agneau suffit ? Non, parce que c'est pas celui d'un homme. Donc c'est vrai, l'agneau apaisait la colère de Dieu. Et puis ben, je me remets à pécher. Et en fait, ça finit par être un rituel extérieur, facile à faire. Tiens, combien l'agneau ? 20 euros, ok, vas-y. Sacrificateur, tu y vas. Finalement, ça transforme pas mon cœur de l'intérieur. Et je me remets à pécher, et je me remets à peut-être même avoir des attitudes hypocrites en disant « Oui, je suis israélite hein, dans l'Ancien Testament, mais en réalité, je cherche pas vraiment à plaire à Dieu. » Ainsi fonctionne l'ancienne alliance dans l'Ancien Testament. Un rituel sanglant pour apaiser la colère de Dieu, d'un Dieu trois fois saint qui est confronté au péché de l'homme. Mais Dieu envoie l'agneau parfait. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Tous ces sacrifices de l'Ancien Testament pointaient vers Dieu fait homme, Jésus-Christ, qui allait prendre notre péché sur lui. Homme sans péché qui meurt à notre place, si nous le croyons. Ça permet d'enlever pour toujours notre péché, de nous réconcilier avec Dieu maintenant et pour l'éternité, nous ouvrant l'éternité dans sa présence. Voilà une bonne nouvelle, voilà l'évangile. Ésaïe est effondré face à son péché, il veut se repentir. Mais le séraphin prend une pierre ardente et sur les lèvres. C'est parfois douloureux la repentance. Hein. Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Parce qu'effectivement, et Ésaïe l'écrira peu de temps après, c'est pour nos fautes, pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé, Ésaïe 53. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Cette braise, elle représente, elle symbolise, elle annonce le sacrifice de Jésus. Donc en pensant à ce Messie qui devait venir, Ésaïe écrit encore « Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Que nous sommes guéris du péché. Hein. « Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. » Ésaïe 53, 5 et 6. La bonne nouvelle, c'est cela. Nous avons été touchés par la pierre ardente du Rédempteur. Par grâce, nous voilà rachetés en vue d'une vie sainte, en vue d'une vie éternelle. Mais pas seulement. Le Seigneur veut utiliser des hommes et des femmes. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous, demande l'Éternel à Ésaïe. Et Ésaïe répondit, me voici, envoie-moi. Et c'est ma dernière partie en forme aussi un petit peu de conclusion. Pour nous mobiliser, donc, une haute vision de Dieu, une basse vision de l'homme, une vision éclatante du Rédempteur, mais aussi une urgente vision du monde. Verset 8, et je crois qu'on va continuer encore deux versets plus loin. Dieu vient de faire un peu mûrir Ésaïe en peu de temps, cerise sur le gâteau, parce que je crois qu'Ésaïe avait déjà bien compris. Voilà, il vient de le faire mûrir spirituellement sur ces visions-là, sur cet écart qu'il existe entre Dieu et l'homme. Alors il est plus mature et le voilà prêt à dire « Oui, ok, envoie-moi, vas-y ». Il va porter du fruit parce qu'il a la bonne perspective de Dieu sur la sainteté et l'homme pécheur. Il a la bonne vision aussi d'un rédempteur à venir, de la nécessité d'un rédempteur, du monde devant lui. Nous pourrions chacun, chacune se poser cette question, suis-je prêt à répondre comme Ésaïe ? Dieu attend les fruits de nos dons. C'est vrai, mais pourtant Dieu n'a pas en fait réellement besoin de nous. Ça peut paraître contradictoire. Il attend qu'on se mette à son service, et déjà le culte, c'est la même racine hein, en hébreu que service, donc nous y voilà, à l'intérieur, à l'extérieur de l'assemblée aussi. Mais Dieu n'a pas besoin de nous. C'est dans la manière de faire qu'il a des attentes, notre Dieu. Dans la manière de faire. Il a beaucoup moins d'attentes au niveau du résultat qui en fait lui appartient que dans les moyens qu'on va mettre en place pour lui obéir et l'attitude qu'on va y mettre. L'important, c'est l'attitude dans laquelle nous faisons les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. Dieu utilise le faire pour transformer notre être. C'est l'œuvre de sanctification faite par l'Esprit Saint, Esprit qui a été envoyé par Jésus. Donc Jésus est venu, non seulement pour nous réconcilier avec le Père, mais pour nous envoyer cette puissance particulière que contient le Saint-Esprit. En leur donnant une bonne perspective, celle d'un Dieu saint, celle d'un homme pécheur, gracié par le sacrifice de Jésus, Dieu mobilise ses enfants, vous mobilise ce matin encore, dans cette période particulière de Noël, où le nom de Jésus va être plus souvent prononcé que tout le reste de l'année. Donc c'est un moment quand même, une occasion à saisir. Avec cette bonne perspective, il sera presque inutile de dire à Dieu, bénis ce que je fais, bénis ceci, telle action. Non, parce que, en réalité, si vous avez une bonne perspective, si nous l'avons, Dieu fera, bénira, parce que nous ferons ce que Dieu bénit. Moi qui suis un jeune pasteur, je me dis qu'on fait souvent des gestes professionnels, mais parfois sans un cœur brisé. Je peux très bien prêcher là, sans avoir un cœur brisé, humilié, en me souvenant que je reste encore pécheur. Je peux avoir des tonnes de prétentions pour l'enseignement, pour le bâtiment, pour l'évangélisation, pour la direction, pour le ménage, etc. Mais je ne dois jamais oublier que je suis un pécheur gracié par un Dieu très saint, adopté parce que le sacrifice de Jésus est parfait, sa résurrection l'atteste. Ésaïe n'a pas Jésus dans sa vie, mais il a bien compris que c'est par grâce qu'il est envoyé par Dieu, par grâce. En leur donnant une bonne perspective, Dieu mobilise ses enfants. Ésaïe va faire ce que Dieu lui demande, prêcher la repentance. Vous imaginez le résultat, ça va être merveilleux, hein ? Il va aller prêcher la repentance. Vous imaginez le résultat ? Allez, pour le plaisir, on jette un œil aux versets 9 et 10 pour le résultat. Le Seigneur me dit, va et dis à ce peuple, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Oui, vous aurez beau voir, vous ne percevrez rien. Rends ce peuple insensible, ferme-lui les oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, pour qu'il n'entende pas de ses oreilles et pour qu'il ne comprenne pas et qu'il ne puisse pas retourner au Seigneur afin d'être guéri. Quoi ? Attendez, est-ce que j'ai mal lu ? Vous avez des choses très différentes dans vos versions ? Non mais... Ésaïe est motivé de la meilleure des manières pour avertir ses contemporains, et il sait d'avance que cela n'aura aucun résultat. Mais ça sert à quoi alors ? Vous imaginez là que je vous dise, allez évangéliser Cavaillon et au-delà, par contre je vous préviens tout de suite, ça bouchera encore plus les oreilles de vos contemporains, on vous moquera, on vous persécutera, pourquoi pas, hein, vous aurez des œufs sur votre vitrine, des cailloux, pneus crevés. Il va pas jusque là, mais... Ah bon ? Ben pourquoi on le ferait ? Ça sert à quoi aujourd'hui d'annoncer l'évangile alors que la plupart des gens, vous l'avez déjà constaté, si ce n'est tous, hein, vont nous rire au nez ? Tout simplement, parce que le refus de nos contemporains à se repentir, ce refus-là glorifie Dieu aussi. Le refus de nos contemporains à se repentir, à accepter l'Esprit de Dieu, la repentance, ça aussi, ça glorifie Dieu. La gloire de Dieu, puisque la gloire de Dieu, c'est surtout sa sainteté, c'est aussi la condamnation du péché. Ne l'oublions pas, la condamnation de l'homme pécheur, bon, nous sommes tous condamnés, alors le maintien dans la condamnation de l'homme pécheur, qui refuse de se repentir, c'est aussi la gloire de Dieu, ça manifeste sa sainteté. C'est justement ce qui prouve que la création, la créature, l'homme, n'est pas saint comme Dieu l'est. La gloire de Dieu se traduit dans sa justice. Imaginez-vous entrer dans une grange après la tombée de la nuit. Grange, donc, en campagne. Vous entrez avec votre lampe de poche. Un peu comme le chrétien qui veut éclairer un peu autour de lui, qui veut rayonner de la gloire de Dieu. Il entre dans un monde de ténèbres avec une bougie, une lampe de poche. Vous entrez dans une vieille grange, toute noire, avec la lampe de poche. Là, vous avez deux bestioles qui vont bouger. Vous avez, par exemple, les rats qui étaient en train de festoyer sur des grains tombés à terre et qui déguerpissent à toute vitesse. Peur. Et vous avez peut-être aussi des hirondelles qui avaient élu domicile dans les poutres, qui se mettent à volter, tiens, c'est la lumière, c'est le matin, ils se mettent à volter, à chanter. Donc, la lumière fait fuir les uns et chanter les autres. Bien souvent, il y a plus de gens qui fuient que de gens qui chantent, on est d'accord. Mais ce n'est pas la lampe de poche qui avait créé les rats ou les hirondelles, ce n'est pas la lampe de poche elle-même qui fait que des personnes fuient la lumière ou l'apprécient. C'est pas la lampe de poche. La lumière n'avait fait que révéler ce qu'ils étaient, révéler leur identité, leur motivation. Quand Jésus est venu sur terre, il était la lumière du monde. En sa présence, certains s'enfuyaient ou se retournaient contre lui, le persécutaient. C'était les rats, on va dire. Et d'autres, les hirondelles, se réjouissaient et devinrent ses disciples. En d'autres termes, Dieu veut nous donner la bonne perspective, à nous la mobilisation dans la ville, à nous le jugement dans les cieux, planté, arrosé, puis c'est Dieu qui fait croître. Nous avons des moyens à mettre en œuvre, notre vie, des paroles pour rendre gloire à Dieu. À Dieu soit le résultat et la conversion. C'est lui qui fera croître ou pas. En leur donnant une bonne perspective, Dieu mobilise ses enfants. Amen.